Nous allons continuer cette lecture de l'évangile de Saint Jean. D'abord, je réponds à une question. Vous avez dit que le vin nouveau représentait le sang du Christ. Ne faudrait-il pas plutôt comprendre qu'il représente l'Esprit Saint qui nous a été donné, qui a été donné à l'Église le jour de la Pentecôte et qui a rempli les apôtres de la joie d'une vie nouvelle? C'est ce que semble dire saint Thomas, paragraphe 347. Le Christ changea l'eau de la crainte en vin de la charité, puisqu'il nous donne un esprit d'adoption filiale, et que la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Ce n'est pas du tout en opposition, hein, d'abord, je fais remarquer. C'est tout simplement deux sens différents. Et que si je prends, c'est parce que mon souci est plutôt d'interpréter saint Jean par saint Jean. Vous voyez ? Alors, c'est essayer de comprendre comment les noces de Cana qui ont été ajoutées, vous voyez bien, les noces de Cana qui ont été le point de départ que saint Jean nous donne et qui n'existe pas dans les synoptiques, donc c'est l'alpha de l'économie divine pour la vie apostolique de Jésus. Et quel est l'oméga? C'est le coup de lance. Il y a donc un parallélisme assez net entre les deux. Étant donné que pour Cana, il est dit que c'est le premier signe, il manifesta sa gloire. Or, nous savons très bien que c'est vraiment à la croix et par le coup de lance qu'il a manifesté en plénitude sa gloire. De sorte que le premier rapprochement, c'est de saisir le lien entre la demande de Marie, la demande de la femme, ils n'ont plus de vin, avec la réponse de Jésus, cette réponse du coup de lance. Il est sûr que l'Esprit Saint est donné par le sang du Christ. C'est évident que c'est à la croix et à travers la croix, saint Augustin nous le dit. De sorte que les deux choses ne s'opposent pas du tout. Il y a simplement, si vous voulez, un souci plus grand que je maintiens au niveau de l'interprétation de saint Thomas entre Cana et le coup de lance. Et que si vous êtes attentif, vous voyez bien que la réponse première, c'est le coup de lance. Et alors, il est sûr que le coup de lance implique l'autre aspect qui est le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est lié au don du sang du Christ. Il est lié au mystère de Jésus qui va jusqu'au bout de son don. Vous avez dit, deuxièmement, que les noces de Cana représentaient le mystère de l'oraison. Saint Thomas semble plutôt dire qu'elle représente mystiquement les noces spirituelles de l'âme et de Jésus. Ce qui est la même chose. Vous n'avez rien. C'est exactement la même chose pour moi. Le mystère de l'oraison, c'est le mystère des noces spirituelles de l'âme avec Jésus. Autrement, nous ne ferions pas oraison. L'oraison, qu'est-ce que c'est? C'est l'exercice divin de la charité. C'est ça l'oraison. C'est l'exercice divin des vertus théologales. Or, l'exercice divin des vertus théologales, c'est justement les noces spirituelles de l'âme avec Jésus. Puisque c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est proprement ce lien de l'époux et de l'épouse. Jésus est l'époux et nous sommes notre âme et l'épouse. Mais il ne parle pas précisément de l'oraison et ne semble pas y faire à des allusions comme le lieu même des noces. Si vous voulez, matériellement c'est sûr, mais spirituellement, je crois que nous devons dire que de fait, le point de vue des noces de Cana prises d'une façon mystique, c'est bien les noces spirituelles de l'âme avec Jésus. Or, les noces spirituelles de l'âme avec Jésus, c'est le mystère de l'oraison. Le mystère de la raison, c'est le point de vue de notre âme qui vit des vertus théologales d'une manière toute divine, sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, comme c'est sous l'action de l'Esprit Saint, c'est vraiment ce lien qui se réalise, cette transformation qui se réalise entre notre cœur et le cœur du Christ. Saint Jean de la Croix n'hésite pas de montrer que, de fait, le point de vue des noces spirituelles, c'est à l'intérieur de l'oraison. Alors la différence, c'est que pour saint Thomas, parce qu'il est théologien, il montre que c'est le point de vue de la charité et l'exercice divin de la charité qui réalise cette unité. C'est pour ça qu'on peut dire que mystiquement, les noces de Cana, c'est vraiment le mystère de l'oraison. Parce que c'est l'exercice divin de la foi, de l'espérance et de la charité, qui est la transformation de notre cœur dans le cœur du Christ. Nous manifestons notre bonne volonté et Jésus, lui, transforme ce point de vue de notre cœur dans son cœur. Et là, Marie a ce rôle à jouer. C'est bien, n'hésitez pas à poser des questions pour que de fait, on puisse préciser. Alors, nous avons ensuite le chapitre 2, second moment. Après cela, il descendit à Capharnaüm, ainsi que sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que quelques jours. Donc, on souligne comment Marie ne retourne pas à Nazareth, mais elle descend avec Jésus à Capharnaüm. Alors, je crois que ça, c'est très significatif. Là encore, vous voyez, ça souligne le rapport entre Cana et le coup de lance. Marie enveloppe toute la vie du Christ de sa présence. Et la présence de Marie est là pour vraiment compléter, achever le mystère de la vie apostolique de Jésus. Et on pourrait dire que la demande de Marie est toujours présente. La demande de Marie, ils n'ont plus de vin, et aussi, faites tout ce qu'il vous dira. Je crois qu'on pourrait dire là, la double action, si vous voulez, de Marie, parce que c'est vraiment la double action de médiation auprès de Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin, et auprès des serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Donc, Marie joue ce rôle de remonter vis-à-vis de Jésus et de redescendre, le double aspect de la médiation. Or, je crois que ce qui nous est donné ici à Cana va, en quelque sorte, commander toute la vie apostolique de Jésus. Alors, second moment, on voit tout de suite que Jean ne fait pas du tout œuvre d'historien. Il y a des détails historiques très importants. Parce que ce détail historique est très important. Regardez le passage avec Luc et Matthieu pour le début de la vie apostolique de Jésus. Vous voyez très bien que Luc et Matthieu ne parlent pas de Cana et que Jean vient corriger le premier moment. C'est Cana. Puis Capharnaüm, puis Nazareth. Alors vous voyez très bien les trois aspects. Et c'est tout à fait normal. Et peut-être à la demande de Marie, Nazareth. Parce que Jésus descend à Capharnaüm, c'est normal. C'est la maison de Pierre. C'est le lieu où Jésus est chez lui. Parce qu'il est en dehors du contexte de Nazareth. Et que de Capharnaüm il remonte à Nazareth, on voit très bien. Vous voyez, on pourrait retrouver l'itinéraire en se servant, mais un itinéraire qui n'est pas du tout complet, Saint Jean nous le dit. Si on avait raconté tout ce que Jésus avait fait, l'univers ne pourrait pas contenir les livres qui racontent tout ce que Jésus a fait. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Alors là encore, quelque chose de très particulier à Saint Jean, puisque si vous regardez le parallélisme entre Jean, Matthieu et Luc, vous voyez que Jean va montrer au début de la vie apostolique de Jésus cette montée à Jérusalem. Et cette montée à Jérusalem est assez tragique, puisque de fait, elle va impliquer que Jésus se mette en colère et chasse les vendeurs du temple. Alors que dans Luc, Matthieu et Marc, le même événement est raconté, avec des petits détails différents, mais c'est le même événement, c'est sûr, au terme de la vie apostolique de Jésus. Or, si je suis l'évangile de Saint Jean, je vois très bien comment cet épisode, chasser les vendeurs du temple, n'aurait pas pu exister au terme de la vie apostolique de Jésus. Jérusalem était dans un état d'effervescence, d'opposition vis-à-vis du Christ, qui fait que Jésus n'aurait jamais pu faire ce geste. Et ça, Jean l'a très bien senti. Le climat de Jérusalem dans la dernière semaine, ou autour de la dernière semaine, Jean nous donne des détails que les autres évangiles ne nous donnent pas. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a eu deux fois un geste de colère. Les gestes de colère, ça ne se répète pas. Quand sont des colères saintes, quand sont des colères psychologiques, au contraire, ça se répète. Parce qu'on tombe dans les ornières. Hein. Et c'est le propre des répétitions psychologiques. Tandis que quand c'est des colères saintes, ça ne se répète pas. Je ne crois pas du tout que Jésus a chassé deux fois les vendeurs du temple. Ça n'aurait pas été impossible. Ce n'est pas contradictoire, c'est bien évident. Mais ça ne me semble pas normal. Et je crois que Jean rectifie quelque chose qui est très important, que c'est au début de la vie apostolique de Jésus. Et alors au début de la vie apostolique de Jésus, c'est tout à fait normal. Jésus a commencé des miracles. Cana, Capharnaüm, Nazareth non, mais Cana et Capharnaüm, on le sait. Il commence sa vie de chef religieux. Et Jésus retourne pour la première fois comme chef religieux à Jérusalem. De 12 ans à 30 ans, ou 29 ans, ou 31 ans, parce qu'on ne sait pas exactement, alors on peut discuter, mais de 12 ans à 30 ans, Jésus est monté régulièrement à Jérusalem. C'est sûr, chaque année. Et chaque année, Jésus a constaté qu'il y avait un désordre. Un désordre qui, sans doute, augmentait d'année en année, parce que c'est le propre du désordre. C'est d'augmenter d'année en année, à moins que Jésus passe pour prendre le fouet. Mais autrement, les désordres ont une pente plutôt vers la facilité. Et ce qui est très important de voir, c'est que Jésus, de 12 ans à 30 ans, ne s'est jamais mis en colère. Il a gardé le silence. Face à ce désordre, il a gardé le silence. Ce n'est que quand il monte avec ses apôtres, donc quand il monte en tant que chef religieux, que Jésus se met en colère. Et je crois ça très important, parce que ça fait comprendre que pendant de nombreuses années, de 12 ans à 30 ans, il y a eu le silence de l'agneau. Il y a eu le silence de Jésus. Et que ce n'est que quand il monte à Jérusalem comme chef religieux qu'il se met en colère. Autrement dit, voyez, ça pose pour nous ce grand problème sur lequel nous reviendrons au terme, parce que c'est peut-être ça le sens mystique du geste du Christ, ce fameux problème qu'on se pose souvent, quand on assiste à un désordre liturgique, ça arrive, hélas. Doit-on se mettre en colère et prendre le fouet, ou doit-on se taire et garder le silence? Quand on se tait, Est-ce qu'on n'est pas complice? Ou est-ce que on doit alors nécessairement se mettre en colère? Mais quand on se met en colère, est-ce que c'est justement ce que l'Esprit Saint veut? Alors, je crois que c'est très important de bien saisir les deux attitudes de Jésus. Il ne faut pas imiter matériellement, il faut imiter divinement. Or, il y a les deux attitudes de Jésus. Les silences de Saint Jean nous le montrent. Quand Jésus, de 12 ans à 30 ans, montait à Jérusalem, on n'a jamais dit que l'enfant Jésus, ou même que Jésus à 25 ans, quand il était capable de prendre le fouet, n'avait pas pris le fouet. On ne l'a jamais dit. Au contraire, on montre cette chose tout à fait invraisemblable, ce scandale. Ce scandale, il a pris le fouet. Et de quel droit? Il n'avait aucun droit. Il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Il n'avait aucun galon. Il était mu par l'Esprit Saint. Non pas au désert, mais dans le droit le plus anarchique qui soit. Il était mu par l'Esprit Saint. Alors ça, c'est très important pour nous. Parce que ça nous aide à comprendre, justement, l'attitude que nous devons avoir face à certains désordres, face à certaines désobéissances. Un désordre implique toujours une désobéissance. Alors, lisons d'abord, si vous voulez, ce petit passage que nous connaissons bien, qui, vous voyez, est très fort, un cède contrat des noces de Cana. C'est même très extraordinaire de voir ça. Et c'est important. C'est juste l'inverse. À Cana, tout le monde est heureux. Il y a du vin en plus et il est bon. Alors, tout le monde est heureux. Tandis qu'ici, je ne dis pas du tout que tout le monde est heureux. C'est très difficile à encaisser. Et la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Donc c'est tout proche de la Pâque. Il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bœufs, des brebis et des colombes, ainsi que les changeurs assis à leur comptoir. Ils auraient dû être dans les parvis, ils n'auraient pas dû être là. On nous a tout de suite le fait. Et faisant un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Et la monnaie des changeurs. Il l'envoya promener. Et leur table, il les renversa. C'est merveilleux, hein, c'est décrit, on voit très bien. Merveilleusement décrit. Donc, cette espèce de... La monnaie va partir dans tous les sens. Il leur table, il les renverse. Et il fait ça très bien, il ne demande pas aux apôtres. Hein. Et la monnaie des changeurs, il l'envoya promener. Et leur table, il les renvoya. Faisant un fouet avec les cordes. La colère de l'agneau. C'est bien la colère de l'agneau. Et à ceux qui vendaient les colombes, il dit, enlevez ça d'ici. Un peu plus de respect là, parce qu'ils vendent des colombes. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Mais c'est impératif. Ses disciples se souvinrent qu'il se trouvait écrit, le zèle de ta maison me dévorera. Et les Juifs prirent donc la parole. Les Juifs qui sont là, qui sont présents dans le temple, et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus répondit et leur dit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le releverai. Les Juifs dirent, voilà 46 ans qu'on travaille à bâtir ce sanctuaire. Ça, c'est un petit détail très heureux pour les historiens. Ils se servent de tout. Hein. Et on voit bien ici l'objection. Voilà 46 ans qu'on travaille à bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Lors donc qu'il se fût relevé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela, et ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Comme c'est simple, comme c'est bien vu. Alors essayons de comprendre. C'est important. Vous savez ce que disent les psychologues, là on peut s'en servir, aujourd'hui, c'est que les colères, c'est extrêmement significatif. C'est pour ça qu'il faudrait faire la théologie des colères de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce serait très beau à faire, hein, une très bonne fiche sur les colères de Dieu dans l'Ancien Testament et relever le motif de ces colères pour découvrir les vulnérabilités de Dieu. On le verra avec Moïse, quand on sera Moïse, là, vous en aurez des quantités de colère de Dieu. Hein. Et ce sera beau de voir, hein, parce que c'est intéressant, on a vu déjà des colères de Dieu chassées du paradis terrestre. La terre est maudite par le sang d'Abel. Le déluge, ça fait quand même trois grandes colères de Dieu. Or, les colères manifeste les vulnérabilités de notre cœur. Quand vous voyez quelqu'un en colère, dites-vous toujours qu'il a été blessé. Autrement, il serait pas en colère. Il a été blessé. Donc, c'est les vulnérabilités de son cœur. Ah, il faut pas se mettre en colère exprès à cause de ça, hein, c'est, surtout pas. Mais quand vous vous mettez en colère, quand vous êtes en colère, malgré vous, à moins que ce soit une saine colère ou c'est sous le souffle de l'Esprit Saint. Et alors, ça reste encore vrai. Quand on se met en colère, c'est parce qu'on est blessé. On a été blessé. Et on veut rétablir l'ordre. C'est pour ça que saint Thomas nous dit que la colère, c'est la passion la plus intellectuelle et la plus noble. C'est pas ça qui pardonne. Hein. Les stoïciens diront l'inverse. C'est la passion la plus terrible et la plus dégradante. Regardez ce que Sénèque dit dans son De Ira. C'est un texte magnifique. Parce que vous comprenez, au point de vue orateur, ça, c'est une des choses les plus étonnantes. C'est la passion la plus proche de l'intelligence. C'est donc une passion qui veut rétablir l'ordre. Un ordre qui a été rompu, qui a été brisé. On veut rétablir l'ordre. Et c'est pour ça qu'on se met en colère. Songez tout simplement à la dernière colère que vous avez eue, qui ne doit pas dater de trop longtemps, n'est-ce pas? Alors, la dernière colère que vous avez eue, oui, heureusement, de temps en temps des colères, parce que c'est très gênant des gens qui n'ont jamais de colère. On a envie de leur marcher sur les pieds pour voir un tout petit peu si ça réagit encore, n'est-ce pas? Alors, songez les dernières colères que vous avez eues. Vous êtes mis en colère pourquoi? Parce que vous avez été en face d'un désordre. Vous aviez établi cet ordre. Vous savez, la cuisinière qui met d'abord les grosses casseroles en premier lieu, puis les un peu plus petites jusqu'à la dernière. Et puis il y a une autre qui l'aide et qui a juste l'ordre inverse. Elle commence par les petites casseroles et pour arriver aux grosses ensuite. Alors si elle fait ça pendant que l'autre est absente, l'autre en voyant ça sera furieuse. C'est toujours comme ça dans la vie commune. Hein. Et alors on est furieux. Vous n'avez pas vu quoi? Désordre que vous avez établi, quoi désordre? Oui, c'est que les grandes casseroles ne sont plus là en premier. C'est les petites qui passent devant. Alors c'est le désordre. C'est le désordre des fenêtres ouvertes ou des fenêtres fermées. Parce que pour certains, les fenêtres c'est fait pour être fermées. Et pour d'autres, c'est fait pour être ouvert. Deux spiritualités. La spiritualité des fenêtres fermées, des fenêtres ouvertes. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire quand on dit qu'un esprit est fermé ou ouvert, il faut dire, ah pardon, c'est la catégorie des fenêtres. Ou la catégorie des portes. Ce n'est pas la catégorie de l'esprit. Donc, les fenêtres, c'est fait pour être ouvert. Alors, il y en a qui veulent à tout prix que ce soit toujours fermé. D'autres, que ce soit toujours ouvert. Et on se met en colère. Toutes les colères de la vie commune proviennent de ça. Il y a des désordres, on n'a pas le même rythme. On n'a pas le même rythme. Alors, il s'agit de dégonfler ses colères, une fois qu'on a compris ça, si on veut ça, après tout. C'est très relatif. Mais, au bout de quelques années de vie religieuse, vous aurez dans la mémoire des exemples extraordinaires de colère. J'en ai d'extraordinaires. Je vous les raconterai une fois en récréation, parce que ça vaut la peine. Parce qu'il y a des colères qui restent comme ça, mais ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est quand même des choses très, très, très impressionnantes, surtout quand on voit des gens respectables se mettre en colère. C'est quelque chose qui fait encore plus rire, parce que ça, on dirait quand même qu'il devrait dominer. Non, il ne domine pas. C'est curieux. Parce qu'on a touché quelque chose qui était directement son cœur. Alors il se met en colère. Dès qu'on se met en colère, on révèle les vulnérabilités de notre cœur. Des choses qu'on cache très bien et qu'on révèle par la colère. Alors c'est très beau, les saintes colères, vous comprenez, et les colères de Dieu nous révèlent donc les vulnérabilités de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une révélation. Et toutes les colères de Dieu dans l'Ancien Testament nous révèlent les vulnérabilités de Dieu. Pourquoi Dieu se met en colère après la faute d'Adam et d'Ève? C'est que ça a touché l'amour que Dieu avait pour ses benjamins, pour son chef-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il se met en colère. Là, nous touchons quelque chose directement. Il aurait voulu qu'ils agissent autrement. Il se met en colère. Et les colères de Jésus nous révèlent les vulnérabilités du Christ. Or, il y a très peu de colères de Jésus. Quelques-unes. Hein. Il y a des cinq colères. Cette génération de notre jour, ce texte de l'Évangile qui était si beau. Non. Cette génération est perverse. Parce qu'elle ne veut pas voir ce qui se passe. Et ici, il y a une sainte colère de Jésus. Alors, qu'est-ce que cette colère nous révèle du cœur de Jésus? C'est ça qui est important. Parce que le geste, c'est beau, c'est très beau, ce geste de colère. Hein. Et faisant un fouet avec des cordes, il chassa tous du temple, et les brebis, et les bœufs, et la monnaie des changeurs, il l'envoya promener. Et leur table, il les renversa. Et à ceux qui vendaient les colombes, il dit « Enlevez ça d'ici ». C'est très beau de voir, voyez, qu'il y a un ordre dans cette colère, hein, vous avez remarqué. Ce qui montre que c'est une colère sainte avec un discernement. Parce que quand c'est des colères purement passionnelles, tout le monde est puni de la même façon. Un vieux pion qui se met en colère, vous savez, ça arrive, ça, on a tous aussi là aussi. Des exemples de pions qui se mettent en colère. Eh bien alors, parce qu'il y a eu telle chose... Tout le monde recevra la punition. Hein, colère passionnelle. Une colère qui est impliquée dans une justice d'amour, alors il y a un ordre. Il y a un ordre. Hein. On voit très bien. Il les chassa tous du temple. Bon, là, quelque chose de commun. Mais, et les brebis, et les bœufs. Ça, c'est l'œcuménisme de la colère. Hein. Alors, ils sont tous mis à la porte du temple. Il a mené des changeurs. Il l'envoya promener. Et leur table, il les renversa. Et à ceux qui vendaient les colombes, il dit « Enlevez ». Il y a un ordre. Il ne dit pas la même chose à ceux qui vendent des colombes et à ceux qui sont les changeurs. Et on comprend très bien pourquoi. C'est sous-jacent. Ça se comprend très bien. « Enlevez ça d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » La vulnérabilité du cœur de Jésus. Tous qui regardent son père. Et l'hommage qui est dû à son Père, la révérence qui est due à son Père, l'adoration qui est due à son Père. Faire de la maison de Dieu un lieu où l'on s'enrichit en spéculant sur la piété des gens. Il n'y a rien de plus horrible. Pour le cœur de Jésus. Et alors on comprend très bien cette maison qui doit être une maison d'adoration, de prière, où l'on reconnaît la majesté souveraine de Dieu. Ne plus reconnaître la majesté souveraine du Père, c'est bien cela qui irrite le plus le cœur de Jésus, puisque ça blesse ce qui est le plus vulnérable en lui, son amour pour le Père. Sa tendresse pour le Père, le respect qu'il a du Père. Alors évidemment que les hommes, ses frères, le peuple de Dieu, ne respectent pas cela. Ça, il n'y a rien qui peut mettre plus le Christ en colère. Et je crois que c'est vraiment cela qui manifeste, voyez, en premier lieu, ce qu'il y a de fondamental dans le cœur du Fils bien-aimé. Celui qui est l'agapétos, hein, le bien-aimé. Alors tout ce qui touche le Père, tout ce qui fait que le Père n'est plus regardé comme il devrait être regardé, a une répercussion sur le cœur de Jésus. Et alors la réaction sainte, c'est cette colère. Et les disciples se sont bien aperçus de cela. Ces disciples se souvinrent qu'ils se trouvaient écrit « Le zèle de ta maison me dévorera ». Donc, ils ont découvert à ce moment-là qu'il y avait dans le cœur de Jésus, au-delà de la colère, et motivant la colère, quelque chose de positif. Le zèle de ta maison me dévorera. C'est un acte de zèle, cette colère. Cette colère, elle est brûlée par le zèle. C'est pour ça qu'elle est une colère sainte. Et c'est un zèle à l'égard de la maison du Père. Et ce zèle le dévore, le brûle intérieurement. Et les Juifs prirent donc la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Il réclame un signe. Jésus agit avec autorité dans le temple. C'est vrai. C'est agir avec autorité que fait Jésus. Puisqu'il n'est pas chez lui, pris de l'extérieur. Il est chez lui, puisqu'il est l'envoyé du Père. Mais les Juifs qui sont autour de lui ne s'en aperçoivent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Et lui, il est chez lui. Puisqu'il est dans la maison de son Père. Et qu'il est là pour... Alors on lui demande un signe. Pour montrer qu'il a l'autorité. C'est ça qu'on demande. Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Et Jésus ne veut pas donner de signe. Jésus répondit et leur dit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le rêverai. Donc il ne donne pas de signe. Il montre que ce geste qu'il fait est un geste préfiguratif du mystère de la croix, ou annonciateur du mystère de la croix, un geste prophétique du mystère de la croix. C'est un geste prophétique. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le ferai. Jésus vient purifier le véritable temple. Le véritable temple, c'est le temple de son corps. Et il vient le purifier pour nous. Donc il ne donne pas de signe. Alors que les Juifs qui ont entendu parler des miracles de Jésus, forcément, ça semble impossible autrement, espèrent que Jésus fera un miracle, qui sera comme un signe qu'il est bien envoyé de Dieu. Et Jésus n'en donne pas. Alors là, c'est aussi très significatif, hein. Jésus ne donne pas des signes lorsque, de fait, ces signes sont demandés d'une manière qui n'est pas normale. Demander un signe pour comprendre la colère de Jésus, c'est un manque de sens religieux. Le peuple d'Israël devrait comprendre, puisque la maison de Dieu, le temple est la maison de Dieu, puisque le temple est le lieu de la rencontre de Dieu et des hommes. Et donc ce n'est pas un lieu de commerce. Le peuple d'Israël devrait comprendre la différence qu'il y a entre eux, un lieu qui est consacré à Dieu, et une activité qui est purement profane. Puisqu'il est le peuple de Dieu, et puis qu'il est dans le temple, et qu'il reconnaît ce que c'est que le temple. Donc il devrait comprendre tout de suite. Jésus rétablit un ordre.
l'ordre qui est dû à la maison de Dieu. Jésus ne fait pas quelque chose de nouveau. Il purifie le temple. Il remet le temple dans la situation qui est normale. Parce que le temple est consacré à Dieu. Et le temple est le lieu de la prière. Et donc, ce que fait Jésus n'est pas quelque chose d'extraordinaire, d'incompréhensible pour un juif religieux. Un juif religieux qui, à la foi, doit comprendre son geste. Puisqu'on ne peut pas faire que Dieu passe en second lieu. Dans le lieu du temple, Dieu doit passer en premier lieu. Et c'est ça que Jésus rétablit. Hein. Il rétablit un ordre. Et c'est pour ça que Jésus ne veut pas donner de signes. Ils n'ont qu'à réfléchir. Ils n'ont qu'à faire appel à leur foi et à leurs sentiments religieux. Jésus ne donne jamais de signes inutilement. Jamais. Il veut qu'on soit intelligent pour lui. Et donc, il ne donne pas de signes inutilement. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le releverai. C'est lui-même qu'il faut regarder. Et comprendront ensuite. Les Juifs lui dirent donc... Alors, voyez la manière toute matérielle dont les Juifs vont comprendre, hein. Il faut voir que Jésus a fait le geste sûrement en disant « Détruisez ce sanctuaire ». Ce sanctuaire, c'est le Naos, hein, c'est le Saint des Saints. « Détruisez ce Saint des Saints et en 3 jours, je le releverai. » Donc, c'est le Saint des Saints. C'est le cœur de Jésus, le Saint des Saints. « Détruisez ce sanctuaire ». Vous voyez encore l'allusion à la blessure du cœur. Ça, c'est très net. À la croix. La brisure du cœur, c'est détruire le sanctuaire, le Saint des Saints. Et en 3 jours, je le referai. Donc l'allusion très nette, mais d'une manière prophétique, que les Juifs ne peuvent pas comprendre. C'est une annonce prophétique qui ne pourra se comprendre pleinement que justement quand on sera devant la réalité. Les Juifs dirent donc, voilà 46 ans qu'on travaille à bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours, tu le releverais. Donc, ils le prennent d'une façon tout à fait matérielle. Ça aussi, c'est à remarquer, les dialogues avec Jésus. La manière dont les hommes comprennent matériellement ce que Jésus dit. Et les hommes, c'est nous, hein. Il faut nous mettre avec eux. Nous comprenons matériellement ce que Jésus nous dit. Nous comprenons matériellement la conduite de Dieu sur nous. Et quand nous comprenons matériellement la conduite de Dieu sur nous, nous ne comprenons plus rien du tout. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Lors donc qu'il se fut relevé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Et ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dit. Donc ça n'a été compréhensible qu'après la résurrection. Et après la résurrection, ils se sont souvenus de ça. C'est un geste qui est tout entier lié à la croix et à la résurrection. Et je crois que c'est l'importance de ce geste. Parce que c'est vraiment un geste prophétique. Donc, nous saisissons à travers ce geste, et c'est, je crois, la grande révélation de ce geste, nous saisissons à travers ce geste l'amour du Fils bien-aimé pour le Père. Nous saisissons la vulnérabilité du cœur de Jésus. Alors on pourrait se demander, exactement comme pour Cana, parce que je crois qu'il faut le faire, quand il s'agit d'un geste, on peut demander quelle est la signification mystique de ce geste. Le mystice de saint Thomas. Saint Thomas l'a donné pour Cana, saint Thomas ne le donne plus pour le reste. Donc il faut continuer. C'est nécessaire, il nous indique, hein, il faut faire ça. Quel est le sens mystique de ce geste prophétique? De ce geste dont la signification est prophétique. Donc, ce geste a quelque chose à nous apprendre. Non seulement il nous révèle profondément ce qui est de vulnérable dans le cœur de Jésus, mais ce geste doit nous purifier. Ce geste doit nous apprendre à vivre en conformité avec Jésus pour que notre âme se purifie et devienne plus semblable à la sienne. Mais je crois que mystiquement, ce geste, qui est un geste de purification, c'est beau de voir qu'après Cana, qui est le geste des noces, il y a le geste de la purification. Et c'est cette manière-là qui nous est présentée. Il ne faut pas l'oublier. Nous, si nous avions donné un conseil au Saint-Esprit, on aurait dit d'abord la purification au temple, ensuite les noces de Cana. D'abord, purifiez-vous bien avant d'entrer dans les noces. Hein, il faut bien se purifier. C'est ce qu'on dirait fatalement. Un peu d'ascèse pendant un certain temps, et puis au terme, hein, il y aura les noces. Pas du tout. Le Saint-Esprit fait l'inverse. C'est ça qui est complètement déroutant. Mais le Saint-Esprit nous déroute toujours, hein, quand c'est du Saint-Esprit. Parce que quand il ne nous déroute pas, ça prouve que c'est pas le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout, chaque fois qu'on est dérouté, c'est du Saint-Esprit. Hein, ça. Faites pas la proposition inverse. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit nous déroute toujours. Parce que le Saint-Esprit va beaucoup plus vite que nous. Et fait des choses étonnantes. Alors c'est très très étonnant de voir que d'abord sont les noces, donc le mystère de l'intimité avec Jésus, puis ensuite le mystère de la purification. Et bien on dirait, mais bon, c'est tout à fait normal, il aurait fallu d'abord aller au temple pour purifier l'Ancien Testament. Et puis ensuite, Cana, le Nouveau Testament. Eh bien non. Il y a un ordre de sagesse divine qu'il faut découvrir. Et je suis persuadé, Saint Jean insiste, hein, premier signe. Donc il veut nous faire comprendre que c'est le premier, c'est voulu par le Christ. Et c'est voulu par Jésus sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et la première chose, c'est vraiment le miracle de Cana, qui a une valeur prophétique, une valeur symbolique, qui montre comment notre âme est transformée par le sang de Jésus, sous le souffle de l'Esprit Saint. Ici, on nous fait comprendre comment, plus l'amour est intense, plus la purification doit être forte. Plus l'amour est intense, plus la purification est forte. Donc, si la nouvelle alliance apporte la surabondance de l'amour, si la nouvelle alliance apporte la plénitude de l'amour, exprimée à travers ce symbolisme des noces, on comprend que la nouvelle alliance doit nous donner un respect beaucoup plus grand à l'égard de celui qui est notre Dieu, à l'égard de celui que nous révèle le Fils bien-aimé, qui est son Père et notre Père. Et c'est cela, je crois, qui nous est révélé mystiquement. C'est ce respect nouveau qu'il faut avoir à l'égard de Jésus et à l'égard du Père. Ce respect dans l'adoration. Puisque le temple de Dieu, c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Et que le véritable temple, c'est le cœur de Jésus. Jésus le dit. Et donc, c'est nous. Lié au Christ. Détruisez ce sanctuaire, en 3 jours je le releverai. Et donc il montre bien, lui parler du sanctuaire de son corps. Le véritable temple, c'est le corps du Christ. Le temple d'Israël n'était qu'une attente. Toute la différence qui existe entre le temple d'Israël et le corps du Christ nous fait comprendre toute la différence qui existe entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle est dans le cœur de Jésus, le Naos, le Saint des Saints, le cœur du Christ brisé. Puisque c'est le cœur de Jésus brisé, c'est la blessure du cœur, c'est là le lieu de l'alliance. Et c'est cela qui nous est montré ici, qu'il faut avoir un respect encore beaucoup plus grand que dans l'ancienne alliance. Et donc, une adoration en esprit et en vérité. une adoration d'amour. Une adoration qui provient de l'amour et une adoration qui tourne vers l'amour. Ce respect de tout nous-mêmes exprimé de cette manière. Je crois qu'on peut aussi préciser un autre aspect qui revient au même du reste, qui est le complément, que mystiquement, ce geste de Jésus doit nous aider à comprendre la distinction qui existe entre le sacré et le profane. Et je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui de nous le rappeler. Vous savez bien que certains théologiens aujourd'hui ont voulu supprimer cette distinction du sacré et du profane. J'ai lu certains articles de théologiens d'aujourd'hui qui veulent supprimer la distinction du sacré et du profane en disant que cette distinction est une distinction grecque. Quand on veut supprimer quelque chose, on le met sur le dos des Grecs. Vous voyez, c'est la poubelle généralisée aujourd'hui. Alors on le met sur le dos des Grecs, parce que les Grecs sont intelligents et on ne veut plus l'être. Alors on dit, c'est une distinction qui est grecque, elle doit être supprimée. Elle n'a rien à faire avec l'alliance chrétienne. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre d'argument. Alors, il faut d'abord dire, attention, cette distinction du profane et du sacré existe dans toutes les traditions religieuses. Donc c'est pas grec. C'est dans toutes les traditions religieuses. Exactement comme la distinction de l'âme et du corps. Toutes les traditions religieuses parlent du profane et du sacré. Parce que toutes les traditions religieuses ont le sens de ce qui est rattaché directement à Dieu. C'est ça le sacré. Le profane, c'est l'horizontal. C'est l'homme relativement à l'homme. Le commerce, c'est du profane. Je n'ai pas encore vu un commerce religieux ou un sacré commerce. Alors voyez bien, ce serait quelque chose de très particulier à ce moment-là. Parce que ce n'est plus quelque chose... C'est vrai, le commerce, c'est l'homme par rapport à l'homme. C'est une justice commutative. Et la justice commutative, c'est justement dans tout à fait horizontal. Pas beaucoup de vertical dedans. C'est l'homme par rapport à l'homme. La distinction du sacré et du profane, vous la retrouvez à l'intérieur de l'Ancien Testament. Regardez les vêtements que le prêtre doit se revêtir pour pouvoir réaliser ce qu'il doit réaliser en tant que prêtre. On l'énumère dans le livre Lévitique. Si dans le livre Lévitique, il n'y a pas la distinction entre sacré et profane, alors là, vraiment, ça prouve qu'on a bien, on n'a pas lu le livre. Il y a le sacré et le profane, les animaux purs, les animaux impurs. Alors, pur et impur, ça se trouve moins après. Alors que Jésus nous ait libéré de la distinction des animaux purs et impurs, ça c'est vrai. Regardez les actes des apôtres. Et ça se voit dans les actes des apôtres. Mais le sacré et le profane demeurent. Il ne faut pas dire la grâce chrétienne prend tout et donc supprime tout profane. Alors, qu'est-ce que vous faites des conséquences du péché originel ? Ça existe quand même en nous, les conséquences du péché originel. Et les conséquences du péché originel, c'est du sacré. Je ne crois pas. Je crois que les conséquences du péché originel, c'est l'horizontal. Et même, ça va un peu plus vers une inclination un peu plus bas. Ça dégringole un peu. Et donc, il faut distinguer en nous ce qui a conséquence du péché originel, ce qui a d'humain créé à l'image de Dieu, qui peut être du sacré, si on rejoint le Créateur. Et puis, ce qui en nous est divin et surnaturel. Alors je crois, et nous y reviendrons parce que c'est important, je crois que ce geste prophétique du Christ doit nous aider à comprendre comment la confusion entre le sacré et le profane irrite le cœur de Jésus.